affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Nous retrouvons aujourd'hui Jean-Marie Rouard qui nous livre le roman de sa vie dans un ouvrage dont les chapitres pourraient presque se lire comme des nouvelles. Un lieu, un personnage, une mésaventure constituent à chaque fois le noyau du récit qui s'accompagne de détours méditatifs sur l'éducation, la littérature, l'ambition, l'injustice ou les mystères de la destinée. L'auteur cultive les contradictions. Une enfance pauvre dans une famille privilégiée, la consécration du Figaro et les lauriers de l'Académie française qui le font entrer dans le théâtre mondain, mais aussi la défense des prostituées ou d'Omar Radad, ce jardinier marocain accusé de meurtre, mais révolte, c'est le titre de ce livre qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Bonjour Jean-Marie Rouard.
Bonjour.
Pour commencer, pourquoi avez-vous intitulé ce livre « Mes révoltes » ? Parce qu'à vous lire, on aurait pu penser que vous auriez pu l'appeler « Mes rêves ».
Oui, mais les révoltes, ça fait partie des rêves. Vous savez, je crois que la faculté humaine la plus importante, et en tout cas celle à laquelle j'attache le plus de prix, c'est l'indignation. Voilà, être capable de s'indigner. Il y a beaucoup de gens qui acceptent les horreurs. Et il me semble que c'est le propre de l'humain de ne pas les accepter, de s'indigner, d'espérer pouvoir les corriger. Et il me semble que c'est au cœur aussi de la littérature. Voilà, et on pourra en reparler. Mais il me semble que la fonction, je ne veux pas employer de grands mots, mais la fonction, une des fonctions de la littérature, c'est justement d'exprimer la révolte de l'individu contre la société. La société qui est normative, la société qui est contraignante. Et il y a quelque chose dans l'être humain qui aspire à autre chose que d'être dans la norme. Il aspire à la reconnaissance de cette particularité intime de son être qui est quelquefois malmenée par la société, et pas seulement dans les dictatures, mais même dans les démocraties. Et il me semble que c'est vrai sur le plan judiciaire, mais c'est aussi vrai sur le plan de la vie courante. Nous sommes en permanence malmenés dans nos rêves.
Alors, le premier chapitre est consacré à une révolte fondatrice, une révolte d'enfants. D'ailleurs, la scène se situe dans un lieu qu'on a du mal à identifier. Au début, on comprend que c'est au bord de la mer, un peu hors du temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première révolte ?
Alors, cette première révolte, la scène se situe devant un tas de pierres dans l'île de Noirmoutier, où mes parents avaient une maison. Et ils avaient acheté cette maison. Ils avaient beaucoup rêvé autour de cette maison qui était ravissante. Vous savez, en bordure de la plage, c'était formidable. Et puis, ils vivaient à Paris, mais enfin. Et ils ont vécu d'une façon un peu comme de bons sauvages, vous savez, dans une sorte d'autarcie. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Et puis est arrivée la guerre, la dernière guerre, 40, et les Allemands ont détruit cette maison. Et toute mon enfance, parce qu'il se trouve que mes parents m'ont confié, pour des raisons obscures, puisque je n'ai pas cherché à élucider d'ailleurs, à des pêcheurs de Noirmoutier. Et donc, pendant 4 ans, j'ai vécu la vie de ces pêcheurs dans des conditions matérielles vraiment minimal, c'est-à-dire il n'y avait pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, enfin on s'éclairait la bougie. Et donc j'allais voir ce tas de pierres qui était là, et je voyais la margelle, je voyais tout ce qui constituait cette maison, mais qui n'existait plus. Elle était réduite à un tas de pierres, et juste à côté, il y avait un blocus terrible avec un canon. Absolument. Et je méditais, enfin, c'était ma première méditation, sur les revers de l'histoire, sur les revers de ma famille. Et certainement, C'était une forme d'injustice de voir cette maison qui ne faisait du mal à personne être détruite. Et certainement, c'est le début d'une forme de mélancolie. Voilà, de mélancolie. Et comme j'ai vu mes parents à ce moment-là accepter leur sort, c'est-à-dire ne pas se rebeller, eh bien, peut-être que c'est à cette époque qu'est né mon désir de me battre. Voilà, de me battre et d'avoir un peu socialement l'esprit de conquête. Vous savez, si on n'a pas l'esprit de conquête, on n'est pas à l'académie. Hein, on ne peut pas arriver. On ne vient pas vous chercher. Voilà. Et par rapport à, justement, à cette famille, à mon père, qui était très fataliste. Voilà. Moi, j'ai décidé de ne pas être fataliste, même si, bizarrement, je crois au décret du destin.
L'histoire que vous racontez, c'est aussi celle d'une revanche sociale. Est-ce qu'on pourrait lire ce livre de cette façon? Vous venez d'une famille à la fois privilégiée, mais vous racontez qu'elle a été déclassée, qu'elle est parfois sclérosée, et que vous regardez après le monde des riches, que vous voulez un fauteuil au milieu des grands hommes, ou plutôt même un strapontin, vous dites à un moment donné.
Oui. Ben, mon but, en effet, il se trouve que j'étais dans une famille très liée à l'impressionnisme, puisque ma grand-mère était peinte par Renoir, c'était une des jeunes filles au piano de Renoir. Le témoin de ma grand-mère, c'était un mariage, était Maurice Denis. Enfin, Degas joue un très grand rôle dans la famille. Bon, c'est une famille à la fois très riche et très lié, ce qui est assez rare dans les familles riches, à ce monde de l'art et de l'impressionnisme. Mais il se trouve que j'étais moi-même dans une famille complètement fauchée, pour des raisons qui seraient trop longues à raconter. Et donc j'ai souffert de l'humiliation de la pauvreté. Pas tellement de la pauvreté. Justement, j'ai eu envie de pouvoir accéder à ce monde de la... pas de la frivolité, mais à ce monde de l'insouciance, voilà. Et quand vous êtes pauvre, vous n'êtes pas insouciant, vous pensez tout le temps à l'argent. Et ce qui me plaisait, c'était de ne plus penser à l'argent. Et je veux dire, si ma seule, c'est même pas une réussite, mais mon seul petit succès, ça a été justement de pouvoir vivre de mon art, d'avoir une vie de passion, de pouvoir réaliser mes passions, soit à travers le journalisme, soit à travers la littérature. Et justement, sans me préoccuper de devenir riche, et même si je me suis retrouvé, c'est vrai, alors là, par le concours de circonstances, au milieu de gens, alors là, richissime. Mais c'est ce qui m'a paru être le roman de ma vie. Voyez. Et quand j'étais dans la famille Agnelli, en vacances chez eux, eh bien, je pensais à ma chambre de bonne, je me disais, à l'époque où je ratais mon bac. Et c'est cette... cette opposition que je trouve très riche dans une vie, avoir connu des choses tout à fait contraires. Voilà, il me semble qu'une vie, c'est un perpétuel enrichissement d'avoir des expériences contraires.
Vous dites que vous avez écrit le roman de votre vie. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, votre vie vous semble romanesque et que quelque part, le détour par la littérature vous aide à mieux la comprendre, à en saisir les fils, ou parce que vous avez aussi romancé votre vie en nous la racontant?
Eh bien, je crois que dès qu'on se penche sur sa vie, dans son passé, et que c'est vrai pour les plus grands, je pense aux Confessions de Jean-Jacques Rousseau, à Chateaubriand, ses mémoires, enfin tous les gens qui ont évoqué leur vie, le cardinal de Retz, Talmont des Réaux, enfin, eh bien, je crois que c'est toujours un roman parce que on reconstitue un passé et l'important, c'est de reconstituer non pas sur l'exactitude, mais sur la vérité, parce que sur la vérité littéraire. Donc, c'est vrai qu'il y a une part de... C'est vraiment ma vie. Mais dès mon enfance, très jeune, je me suis dit « j'aimerais avoir une vie romanesque ». Voilà. J'aimerais pas avoir une vie banale, j'aimerais pas avoir une vie ennuyeuse, une vie vraiment... j'aimerais avoir une vie, même avec du malheur, même avec des secousses. Et c'est pour ça que l'amour a joué un très grand rôle dans ma vie, puisque c'est vraiment... L'amour, c'est archi-romanesque. C'est vraiment un roman qui vous est tendu par le hasard ou par la destinée. Et donc, j'ai toujours voulu avoir une vie romanesque. Puis ensuite, j'ai voulu écrire des romans. Et là, je puise dans ma vie tous les éléments romanesques. J'évite au lecteur tout ce qui est un peu ennuyeux, c'est-à-dire le baptême, la première communion, je ne sais pas, les histoires de famille qui n'ont pas d'intérêt. J'essaie de trouver en moi, c'est un peu prétentieux, mais ce que Jung appelait l'archétype. Voilà. Je crois qu'il y a chez un être humain, eh bien, il contient toute l'humanité, et il contient à toutes les époques des gens qui pensaient comme lui. Et c'est ça qui est intéressant de retrouver en soi, c'est ce qui parle à tout le monde.
Et alors, dans ce roman, quel genre de héros êtes-vous ?
Eh bien, je crois que je suis un héros curieux et ébahi par ce qui lui arrive. Vous savez, je suis vraiment en permanence. Je ne suis pas un enfant gâté dans la mesure où je ne considère pas que le fait d'avoir écrit presque 30 livres, je me considère comme un jeune romancier, quelqu'un qui commence. Vous voyez, j'ai toujours le sentiment de commencer et d'être émerveillé d'avoir pu franchir cette ligne de démarcation entre les gens publiés et les gens qui ne sont pas publiés. Et je vous jure, je souffre beaucoup pour tous les gens que je vois qui veulent publier leurs livres, qui n'y arrivent pas. C'est très, très, très douloureux. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu, je le raconte dans ce livre, j'ai vécu l'horreur du refus des éditeurs. Voilà. Donc, je me sens toujours dans cette période de, si vous voulez, à la fois de curiosité devant ce qui m'arrive et de surprise de voir comme la vie est étrange et surprenante. Et à un moment, je me compare à ce personnage de « La vie est un songe » de Calderon, qui, vous savez, c'est un fils de roi, et le roi le place tantôt dans un cachot épouvantable au milieu des rats, tantôt dans une chambre magnifique, dans un palais. Et alors le pauvre, le malheureux ne sait plus vraiment à quel monde il appartient, si c'est le monde horrible du cachot ou celui du palais. Eh bien, je me sens un peu dans cette position. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai été transféré d'une façon presque permanente, voilà, et même au sommet d'une carrière, parce que il n'y a pas de carrière sur le plan artistique. On essaie de faire de son mieux, d'écrire. Et c'est pas... Mais en revanche, socialement, il y a un peu une carrière. C'est pas...
Entrer au Figaro, par exemple.
Ou entrer à l'Académie, ça fait partie d'une sorte de carrière littéraire. Voilà. Eh bien, on m'avait dit, maintenant que vous êtes à l'Académie, plus rien ne peut vous arriver, m'avait dit Maurice Druon. Et puis, justement, j'étais viré du Figaro. Vous voyez. Donc, c'est ça qui est étonnant dans la vie, c'est qu'on ne peut... Rien n'est assuré. Vous savez, rien n'est assuré, et je crois que ça, c'est le destin de l'homme. Rien n'est assuré, ni l'amour, ni les fidélités, ni l'amitié. Et on le voit bien aujourd'hui dans la situation internationale, mais on l'a toujours vu, je veux dire. Ces gens qui sont chassés de leur pays, qui sont obligés de quitter leur pays, qui voient leur maison détruite, eh bien, c'est le destin de l'homme. Rien n'est jamais acquis.
Le destin, c'est un mot qui revient souvent. Dans ce livre, vous parlez donc de la destinée, vous parlez même parfois du Nord d'Ali, je crois, au moment de l'écriture de votre premier livre. À la fin, vous finissez en disant que c'était écrit, c'était ainsi. Quelle est la part de liberté et de destinée ?
Bien, vous avez posé une très bonne question, c'est la question que je me pose. Je me pose en permanence, depuis le début, que je réfléchis, et à la fin de ce livre. Vous voyez, je me suis vraiment tout le temps, et peut-être ce livre tente d'y répondre, quelle est la part de la volonté et cette forme de destinée. Parce que moi, j'ai fréquenté beaucoup de voyantes, justement, parce que j'espérais qu'il m'arriverait quelque chose, j'espérais que quand j'étais malheureux en amour, j'allais rencontrer la femme de ma vie, j'espérais que quand j'étais, justement, j'avais des problèmes dans les journaux où j'étais quelquefois mal vu, ben, que j'espérais que je trouverais le journal idéal, enfin bref. Et puis j'espérais le succès de mes livres, comme tout le monde. Et en même temps, il me semblait, j'avais ce sentiment très étrange que les choses étaient écrites. C'est pour ça que j'ai trouvé une grande fraternité chez Napoléon. Parce que, pardon de cette mégalomanie, mais Napoléon est quelqu'un qui, étrangement, croit à son destin. C'est pour ça que j'ai écrit une biographie sur lui, enfin un essai biographique sur Napoléon. C'est qu'il croit profondément à son destin, mais en même temps, il est très reconnaissant à tous ceux qui vont l'aider à accomplir sa destinée. Donc c'est ce mélange des deux. Il croit à sa volonté et en même temps, il accepte ce qui va arriver, ce qui est inscrit dans le ciel.
C'est intéressant que vous parliez de fraternité parce que la solitude semble vous habiter depuis le début, même au milieu des mondanités. Et les frères, vous les cherchez aussi, soit dans l'histoire, soit dans la littérature. Il y a par exemple Julien Sorel qui a été un frère, il y en a beaucoup d'autres. Ces camarades, d'une certaine façon, peuplent votre univers ?
Oui. Vous savez, les héros de roman nous accompagnent, les héroïnes, bien sûr, nous accompagnent. Et il me semble qu'ils ont remplacé dans notre vie à la fois les héros de la mythologie. Notre mythologie, au fond, c'est plus Zeus, Apollon, Vénus. Notre mythologie, c'est maintenant à la fois Napoléon, mais c'est aussi Chateaubriand. Enfin, pour moi, Chateaubriand, c'est aussi Balzac, Stefan Zweig, Tolstoï ou Proust. Ces êtres m'accompagnent aussi bien leur vie que leur œuvre et les personnages de romans qu'ils ont créés. Et on pourrait dire qu'ils remplacent également ce qui était une mythologie plutôt reconstruite, qui est la mythologie des saints. Eh bien, je pense que cette présence qui était autrefois extrêmement grande a été remplacée peu à peu par justement des images plus laïques que sont les grands romanciers, les grands personnages de romans.
Alors, votre destinée, c'était de devenir écrivain, vous le dites, mais vous êtes aussi devenu journaliste et vous avez aimé, à une époque du moins, ce travail de l'enquête. C'est peut-être lui qui a réveillé les révoltes, d'autres révoltes ?
Oui, mais disons, j'ai vu le journalisme comme un prolongement de la littérature. J'ai jamais séparer vraiment les deux, sauf quand je faisais les commentaires politiques. Je crois que ça ne mérite pas qu'on les garde, mes commentaires politiques. Mais en revanche, toutes ces enquêtes journalistiques, je les ai vues comme, au fond, ce qui était ma vocation à travers le journalisme, c'était donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donner la parole aux gens malheureux. Et essayer de les défendre. Voilà, je trouve que c'était ça la noblesse de ce métier de journaliste. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à ce monde du journalisme, parce que j'ai essayé de le tirer vers l'essentiel, vers les choses utiles. Voilà, pas seulement faire des articles qui n'avaient absolument aucune conséquence. Et vraiment, il me semble qu'il y a ce lien très profond que j'ai essayé aussi d'analyser en écrivant ce livre, et qui m'a un peu obnubilé, c'est le lien entre ce sentiment que nous avons de l'injustice et la littérature. Voilà. Et il me semble qu'il y a un lien très profond, et pas seulement l'injustice au sens judiciaire, puisque j'ai pris fait et cause pour les gens qui avaient des problèmes judiciaires, comme Gabriel Russier en 1969, comme Omar Radad plus tard, comme un homme qui avait été malmené par les compagnies pétrolières. Voilà. Donc, j'ai essayé de défendre ces gens, mais ce n'est pas seulement sur le plan judiciaire. Je pense que la littérature, elle donne la parole à tous ceux qui souffrent. Et il me semble que nous souffrons tous en permanence. Si on a un peu de sensibilité, il n'y a pas un jour où nous ne souffrions pas. Voilà, on souffre. Ben, on souffre parce qu'on voit ses parents vieillir, on voit que les enfants, ou bien on a des problèmes de santé, ou bien travaille mal en classe, enfin, tous les problèmes des parents, et les problèmes d'amitié, les problèmes de relations sociales. C'est vraiment un ensemble de frictions permanentes qui blessent. Je crois que l'homme, en permanence, est blessé. Enfin, bon, peut-être que je le vois à mon image, mais moi, je suis en permanence blessé, et il me semble qu'à travers la littérature, nous arrivons à... Nous sommes blessés parce que nous faisons des rêves. Il nous fait rêve d'une vie parfaite. Et à travers la littérature, nous compensons ce manque justement de satisfaction dans les rêves en lisant des histoires de gens différents, de héros de romans. Il me semble qu'il y a vraiment un lien très, très profond et que la littérature est une sorte de compensation à l'injustice.
Et vous dites d'ailleurs qu'au Figaro, la littérature était parfois utilisée pour traiter certains sujets qui auraient pu choquer les lecteurs d'une façon différente, qui évitait qu'ils ne s'étranglent en avalant leur café le matin.
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est une période très ancienne, le Figaro. C'était avant mai 68. Et c'est vrai que c'est un journal pas pudibond, mais enfin, un journal de la bourgeoisie, on faisait très attention. On n'avait pas le droit d'écrire le mot divorce, le mot suicide, pour ne pas choquer les lecteurs. Et c'est vrai qu'en même temps, c'était un journal extraordinairement ouvert sur le plan littéraire. Et je veux dire, j'étais au milieu de gens inouïs. Je côtoyais Mauriac, je côtoyais Jean d'Ormesson, Jacques de La Cretelle. C'était absolument extraordinaire de voir à quel point ce journal avait placé la littérature au sommet. Enfin, vraiment, c'était... Mais ce qui correspondait, je crois, bien à la société française. La société française, et notamment la bourgeoisie française, considérait que la littérature, avec l'État, et avec la religion catholique, eh bien, c'était les piliers de la France. Et alors maintenant, ça a un peu changé. Les gens ne considèrent plus que la littérature soit aussi importante. Je crois que c'est dommage. Et je crois qu'ils ont tort, parce que je crois que la littérature, c'est ce qui permet de créer des liens entre les individus, de rassembler des rêves, et en même temps de créer une cohésion. Et notamment, on le voit peut-être, vous l'éprouvez aujourd'hui comme moi, les conversations, la baisse terrible des conversations dans les dîners. On voit maintenant, c'est envahi par les questions qui sont des questions matérielles. Enfin, vous voyez, on est... Alors qu'autrefois, la littérature permettait d'avoir une discussion sur des questions d'ordre esthétique. Et c'était, je pense, c'était une élévation. Ça donnait une... Enfin, de mon point de vue, il y a une baisse générale de la conversation qui tient aussi à une baisse de l'intérêt qu'on a pour les œuvres d'art.
Alors, dans cet univers du Figaro, émergent deux figures tutélaires, parmi d'autres. C'est celle de Raymond Aron et puis celle de Jean d'Ormesson, une lumineuse pour vous, une plus sombre, avec parfois quelques renversements. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, ces deux hommes que j'ai admirés, parce qu'ils étaient admirables, c'était deux grands esprits, c'est évident. Et moi, vraiment, ma faculté première, j'ai parlé de l'indignation, mais c'est aussi l'admiration. Et vraiment, j'admirais Raymond Aron, peut-être moins que Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson était un littéraire. Et Raymond Aron, c'est pas un littéraire, c'est un... Bon, pour d'autres raisons, quand je le voyais arriver, j'avais l'impression de voir un monument historique, vous voyez, je ne sais pas si c'était la Tour Eiffel en complet veston, il arrivait. Voilà, et je l'ai vu, et avec Jean d'Ormesson, j'étais beaucoup plus lié, alors vraiment, parce que une connivence. Et évidemment, ça s'est assez mal passé avec les deux, parce que nous avons eu à ce moment-là des circonstances. Ça a été la reprise du Figaro par Robert Hersant, et il y a eu une grève du Figaro, ça a été une bagarre terrible. Et là, j'ai vu alors les individus, ces personnalités exceptionnelles, hein, faut reconnaître, et je reconnais qu'elles étaient exceptionnelles. Je les ai vus aux prises avec les réalités de la politique et de l'histoire. Et c'est sûr que l'un et l'autre étaient un peu décevants, parce que Raymond Aron, plus décevant que Jean d'Ormesson, parce que Raymond Aron était un politique. Et quand il y a eu des gens qui ont été exclus du Figaro, 130 journalistes qui ont été... Et j'ai vu le manque d'humanité de Raymond Aron, qui m'a un peu déçu sur les hommes. Mais écoutez, moi, je suis là pour rendre justice, ce n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer cette vérité que j'ai connue, voilà, de ce roman de ma vie. Et voilà, c'est des personnages, je montre comment j'étais vraiment plein d'enthousiasme et comment ils m'ont un peu déçu. Mais enfin, c'est pas ce jugement, il est secondaire. Mais ce qui m'importait plutôt, c'était de les décrire, les méandres de leur personnalité face à un moment historique, si vous voulez, qui était un peu difficile. Voilà, j'étais un peu déçu. Mais vous savez, l'important, c'est, au fond, ce qui m'anime, et c'est vrai, dans les moments difficiles de ma vie, à chaque fois quand j'ai subi des souffrances terribles, quand j'étais plaqué d'une façon terrible par une femme, je me disais, j'espère que ça me permettra d'écrire un bon livre. Voilà. Et eh bien, aussi, même dans ces déceptions, à chaque fois, je me disais, bon, eh bien, je souffre, c'est douloureux, mais au fond, la littérature, elle tire son essence de ces souffrances. Elle vous rend intelligent. Voilà. Alors, j'espère que j'étais intelligent dans ma description et que j'ai permis au lecteur de comprendre justement des vérités sans être injuste. Parce que mon but, ce n'est pas d'être injuste non plus. Je suis tellement sensible à l'injustice, je ne veux pas répéter à mon tour des injustices.
Faut-il en passer par là pour écrire un livre ?
Vous savez, toute vie est une vie qui est traversée. On passe dans le cercle de feu, on passe par la souffrance. Mais donc, un écrivain est forcément passé par la souffrance. C'est impossible de ne pas... Vous voyez, pour ne pas souffrir, il faudrait ne pas rêver. Il faudrait ne pas espérer. C'est impossible. Je crois que ça n'existe pas. Même des gens comme Jean d'Ormesson, donc, que j'ai bien fréquenté et que j'aimais vraiment beaucoup... Eh bien, il a eu ses souffrances, vous savez, il a eu ses souffrances, ses humiliations pendant très longtemps. On ne l'a pas considéré comme un écrivain. On l'a méprisé pendant très longtemps dans sa jeunesse. Donc, non, tout le monde souffre. Et je crois que c'est la destinée humaine. Mais le privilège des artistes, c'est de saisir ces instants, de saisir des instants et de leur donner une forme d'éternité. Voilà. Et ça, c'est un privilège immense. Parce que vous savez, quand nous souffrons, quand quelqu'un souffre, il se dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert, cette souffrance ? Eh bien, l'artiste, l'écrivain, peut, lui, se dire, ben, cette souffrance me servira à essayer de créer quelque chose et qui parlera aux autres. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, il y a un passage chez Proust, dans Albertine disparue, où il raconte comment il est plaqué par une jeune femme, Albertine. Eh bien, moi, ce livre, qui exprime une souffrance, même si Albertine était un homme, on s'en fiche complètement, mais c'est la souffrance d'un homme plaqué. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des problèmes sentimentaux, je me référais, je relisais les passages, et ça me faisait du bien. Donc, j'espère que aussi dans mes livres, les gens pourront, en voyant mes malheurs, l'analyse de mes malheurs, ils pourront en tirer une sorte de thérapie. Voilà, je crois que c'est ça aussi la littérature. La littérature qui exprime des souffrances, eh bien très souvent, elle vous permet de vous réconcilier avec la vie, de comprendre qu'on n'est pas le seul à avoir souffert. Et il y a un livre merveilleux que vous connaissez, qui est Boule de Suif, de Maupassant, qui exprime une injustice pour la guerre de 70. Et ce livre est merveilleux parce que, vous voyez, il répare une injustice de cette prostituée qui est mal vue par tout le monde. Et en même temps, il nous donne... On se dit, puisqu'un homme a pu réagir de cette façon-là devant une injustice, on est rassuré sur l'humanité à travers ce magnifique écrivain qui, en même temps, a fait une très belle œuvre d'art.
Vous parlez de Boule de Suif et de cet épisode du voyage où la prostituée est maltraitée. Les prostituées sont des femmes pour lesquelles eh bien, vous avez été sensible, vous avez cherché à les défendre. Pourquoi vous ont-elles touché d'une façon particulière ?
Ça, c'est très tôt. Très tôt dans ma vie, j'ai senti que la prostitution... Il y avait un décalage entre une vision morale de la prostitution et une vision sociale. Et là, si on mélange les deux, on fait complètement fausse route, on ne comprend pas du tout le problème. En fait, la réalité, c'est que la prostitution, c'est un problème beaucoup plus social que moral. Parce que vous remarquerez, dans la bonne bourgeoisie, vous avez très peu de prostituées. Bon, il faut les chercher dans les milieux très défavorisés. Et si je me suis battu pour ces prostituées, même au point de me mettre mal avec les associations qui défendaient les prostituées, parce qu'elles ont prôné justement la condamnation du client. Or, le client, c'est vraiment quelqu'un qui est indispensable pour la prostituée, parce que sinon, elle ne peut pas vivre. Elle est marginalisée. Eh bien, si j'ai essayé de les aider, essayé d'écrire sur elle, essayé en tout cas de dire, de m'indigner, même sans me dire que j'allais résoudre le problème, qui est un problème extrêmement complexe, eh bien, c'est en même temps parce que je considère que dans l'échelle des souffrances, ce sont les pires souffrances. Voilà. C'est vraiment les femmes qui souffrent le plus. Alors moi, je veux bien m'intéresser à MeToo, à tous ces mouvements féministes. Mais il y a quelque chose de bien pire que tout cela. Que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de bien secondaire à côté de ce que peuvent vivre les prostituées, le chantage qu'on exerce sur elles à travers leurs enfants, à travers la drogue. C'est, disons, l'ensemble des malheurs qui sont résumés chez un être. Et d'ailleurs, quand l'ONU avait fait une déclaration pour condamner la prostitution, elle avait dit « la prostitution est le mal qui l'accompagne ». Voilà, parce que ce n'est pas seulement la prostitution elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour de malheurs effroyables. Et il faut le voir, on en a une idée si on veut s'appesantir, mais très souvent, devant un tel malheur auquel on ne peut rien faire, eh bien, on a tendance à ne pas vouloir le regarder en face, ou le regarder d'une façon morale, c'est absurde. Et quand vous allez au bois de Boulogne, quand vous allez au bois de Vincennes, où je suis allé pour essayer d'apporter un peu de réconfort aux prostituées, avec des prêtres d'ailleurs, eh bien, vous voyez, c'est l'horreur vraiment de ces femmes à moitié nues qui sont là sous la pluie, sous la neige. C'est atroce.
Aujourd'hui, quelle est votre révolte ?
Bah, toutes celles que j'ai évoquées, celles-là particulièrement. Mais vraiment, il me semble que ce sentiment de révolte, on le vit en permanence. L'histoire nous apporte chaque jour un plat, une nouvelle qui vous donne envie de vous révolter. Enfin, je veux dire, en ce moment, que ce soit l'Ukraine, mais plus près de soi, voilà, plus près de soi, quand vous voyez le soir, vous promenez après le dîner, vous voyez des gens qui fouillent dans les poubelles, vous dites comment que c'est encore possible, vous voyez. Et puis, il me semble que l'homme qui est une machine à rêver, eh bien, est en permanence rabroué dans ses rêves, et que ça, c'est ce que je trouve révoltant, mais en même temps, l'espoir, je vous disais, le grand privilège voilà, de l'écrivain, c'est qu'il peut rendre les autres témoins à la fois de ses souffrances et de ses révoltes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, que très souvent je me pince, moi, en me disant... Quelle chance j'ai eu de pouvoir accéder à la publication et de pouvoir consacrer ma vie justement à me pencher sur toutes ces questions que tout le monde éprouve, mais dont les gens ne sont pas souvent, ils n'ont pas les moyens d'en rendre compte.
Et il vous reste donc des rêves ?
Ah, mais je n'ai que ça. Vous savez, si on ne rêve plus, c'est qu'on est mort, c'est que... Ou bien on est, d'une certaine façon, satisfait. Alors là, c'est la chose la pire. Vous savez, les gens qui se croient arrivés et les gens qui se prennent au sérieux. Ça, c'est peut-être la mort avant la mort. Donc j'espère, je touche du bois, de ne pas avoir cet inconvénient.
Eh bien, un grand merci, Jean-Marie Rouard. Je rappelle donc le titre de votre livre, « Mes révoltes ». C'est aux éditions Gallimard et ce livre vient de paraître. Merci et à bientôt.
Merci.
Thank you.